en famille avec Zour sur Radio Orient.
Les enfants exposés à la violence conjugale en subissent profondément les effets, même sans être touchés. Ils vivent dans la peur, l'instabilité et le stress, ce qui impacte leur développement et leur bien-être. Les protéger et les accompagner est essentiel pour briser le cycle de la violence. Avec nous aujourd'hui, Dr Nora Yefsah, pour parler de ce phénomène très très grave. Donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Docteur Nora Yefsah, et comment tout d'abord expliquer que les enfants subissent les conséquences de la violence dans la famille, la violence conjugale généralement.
Bonjour Zohour, merci pour l'invitation, merci pour ce choix du sujet très important, très pertinent. Il faut qu'on parle justement de ce sujet. Vous avez cité tout à l'heure quelque chose de justement que j'ai souligné, les enfants touchés, même s'ils ne sont pas présents. Donc là, je vais citer justement deux types de violences. Quand on parle des enfants victimes de violences, il n'est pas nécessaire que les enfants soient présents. Ce qu'on appelle, les enfants, des fois, sont exposés d'une manière directe, ça veut dire qu'ils ont assisté aux scènes de violence, mais des fois, ils ont touché d'une manière indirecte. Par exemple, au retour de l'école, ils remarquent des bleus sur le corps de la mère, par exemple, de la tristesse, un climat de silence. Donc tout ça déjà impacte directement la sécurité psychologique et émotionnelle de cet enfant. Un sujet important, pourquoi ? Parce que là, quand les enfants sont exposés, l'impact va être différent de l'adulte exposé à la violence conjugale. Si c'est la femme ou l'homme qui est exposé à la violence, c'est un adulte. On sait qu'un adulte a atteint déjà une certaine maturité intellectuelle, émotionnelle et sociale. Par contre, l'enfant ne comprend pas ce qui arrive dans le milieu familial. J'attire l'attention importante, c'est que concernant le développement intellectuel de l'enfant, ça dépend de son âge. Quand je dis l'enfant, ça veut dire que jusqu'à 12 ans, c'est toujours un enfant. D'accord. Il n'a pas encore intellectuellement ce qu'on appelle, atteint plutôt le stade des opérations abstraites. Ça veut dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il y a quelque chose d'important, c'est que pour lui, il est dans un climat d'insécurité. Et c'est ce qui va impacter justement son développement d'une manière globale.
Justement, Dr Nora Yefsah, les enfants comprennent-ils réellement ce qui se passe à la maison? Et comment et en quoi le climat de violence affecte-t-il leur développement émotionnel?
Alors, Zoro, vous savez que la première chose que l'enfant demande à sa naissance, ce qui répète à chaque fois le psychanalyste Jean Bowlby, la première chose que l'enfant demande à sa naissance, c'est l'amour, c'est la sécurité, c'est la protection. Mais finalement, il se trouve dans un climat
d'insécurité. Quand on n'a pas cet amour et cette protection, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre.
Oui. Et puis, l'enfant ne comprend pas ce qui se passe justement. Mais tout simplement, il ressent qu'il est dans l'insécurité, dans la peur. Et ce que je dois attirer l'attention des auditeurs, c'est que des fois, ils me disent « Mais il est petit, il ne comprend pas. » Écoutez, donc, l'impact de ces violences, l'impact directement, le côté émotionnel même, c'est important, je dois attirer aussi l'attention. Il y a des femmes battues pendant la période de grossesse. Et ça peut impacter le bébé dans le ventre maternel. On sait que les études ont montré qu'à partir surtout du 7e mois, l'enfant, le bébé dans le ventre, de la mère ressent l'état émotionnel de la mère. Donc, on doit protéger cette mère pour protéger cet enfant. Donc, pour dire que toutes les études ont montré que l'enfant ressent donc tout ce que la mère, l'état émotionnel. Donc, il y a un lien direct avec son bébé et à la naissance, il est là. C'est vrai que sur le plan intellectuel, il ne comprend pas, mais il ressent. Et c'est ce qui fait justement l'effet négatif sur son développement, des fois même physique. Je dois attirer l'attention. Il y a certains freins sur le développement neurologique, même le langage, même justement la relation sociale, etc. Et ça peut être dû à cette période de, enfin, pas de conflit, de violence, de maltraitance. Et chaque enfant le reçoit à sa façon, à sa manière, selon justement sa constitution psychologique. Je dois attirer l'attention que chacun de nous a une constitution psychologique différente. C'est-à-dire qu'il y a des personnes vulnérables. Donc, si la personne déjà est fragile sur le plan psychologique, elle sera plus impactée qu'une autre personne, qu'un autre enfant qui a quand même un certain caractère, qui peut, il a une certaine résilience.
Docteur Nora Yafsah, quelle place l'école peut-elle jouer pour repérer et protéger un enfant exposé aux violences conjugales?
Alors, l'école joue un rôle très, très important. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois qu'un psychologue scolaire est nécessaire dans l'école. J'ouvre une parenthèse, c'est que vous le savez tous que l'enfant passe beaucoup de temps à l'école qu'à la maison. Donc là, quand il passe beaucoup de temps, l'observation des enseignants, de l'ensemble, ça veut dire que du personnel de l'établissement peuvent avoir l'observation sur l'enfant. Quand on remarque un enfant qui ne joue pas, un enfant qui s'isole, un enfant qui pleure sans raison, un enfant qui ne s'intègre pas avec ses camarades, un enfant qui n'est pas heureux, qui n'est pas souriant, un enfant qui a peur de parler, un enfant des fois qui refuse d'entrer à l'école, parce que là, je parle par exemple du phénomène de la phobie scolaire. Il faut vraiment attirer l'attention des parents et en discuter, c'est important. Vous savez, des fois, quand ils ramènent un enfant pour une consultation, par exemple pour des résultats scolaires insuffisants ou les parents ne sont pas satisfaits, personnellement, en tant que psychologue, je ne cherche pas à savoir pourquoi il ne travaille pas, je vais le prendre en charge, il doit avoir des résultats, parce que là, les parents, ils cherchent justement...
Elle a besoin d'aide, de devoirs, et peut-être elle a besoin d'autre chose.
Voilà. Mais finalement, moi, je cherche en premier lieu le climat familial. Il est dans quel climat? Quelle est la relation? Et je veux plutôt la réponse de l'enfant. Parce que des fois, on me dit, oh, oui, on lui a tout acheté, sincèrement, il manque de rien. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il a justement un besoin primordial qui est le besoin émotionnel? Est-ce qu'il est dans un climat sécurisé? Et là, des fois, généralement, je découvre justement cette peur. Des fois, l'enfant me dit carrément, j'ai envie de vous en parler, mais j'ai peur. Là, j'utilise d'ailleurs, généralement, on utilise le dessin comme un moyen de projection. Et là, sur le dessin, l'enfant raconte des histoires, son histoire à lui, sa souffrance, des choses qu'il ne comprend pas. C'est là qu'il a besoin qu'il soit sécurisé et pour régler justement ces résultats. Parce que quand on parle des résultats scolaires insuffisants, ça veut dire qu'il ne se concentre pas en classe. Et pourquoi il ne se concentre pas? Des fois, il vient de la maison après une dispute, il a peur. Vous savez que vous me rappelez d'un cas d'un enfant qui ne veut pas aller à l'école. Mais... pendant la consultation, il m'a dit carrément, « Madame, je ne pars pas à l'école parce que j'ai peur de laisser maman seule à la maison. Peut-être quand je vais revenir, je ne vais pas la trouver. Je vais la trouver morte. » Mais quand je pose la question, il me raconte justement les conflits et les violences physiques que la maman subit. Donc là, regardez comment l'enfant réagit. Pour lui aussi, il peut développer un sentiment de culpabilité. C'est à cause de moi. Je ne travaille pas bien à l'école. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des disputes à cause de moi à la maison. J'attire, je répète encore une fois que l'enfant ne comprend pas ce qui se passe, mais il reçoit ce climat, ces violences. C'est comme un frein, une inhibition. Et ça touche son côté intellectuel, la baisse de motivation. Il ne veut pas aller à l'école, il ne travaille pas, il ne se concentre pas. Il ne peut pas être épanoui, il ne peut pas avoir des camarades de classe, des amis, il ne peut pas jouer. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment finalement avoir une relation, profiter de la vie, jouer, etc. Donc regardez comment cette violence impacte d'une manière indirecte tous les plans de développement psychologique de l'enfant, que ce soit intellectuel, social, émotionnel, etc.
À votre avis, docteur Nora Yafsah, cet enfant peut être violent lui aussi?
Ah oui, c'est une bonne question. Écoutez, vous savez, je reçois des fois des femmes ils avouent qu'ils sont violentes. Voilà, je suis violente avec mon enfant et pourtant, j'étais victime de violence. Mais je n'arrive pas à dépasser ça. Je ne peux pas généraliser pour vous dire que chaque personne, que ce soit garçon ou fille, s'il a vécu dans un milieu de violence, ça veut dire qu'elle va répéter ça. Non. Il y a ceux qui ont fait un travail sur eux-mêmes, ils ont dépassé ça, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas dépasser ça. Pourquoi? Parce que j'attire l'attention que chacun de nous a un côté inné et un côté acquis. Ça veut dire qu'on est avec, par exemple, un caractère, avec des dispositions vers des violences. Il y a aussi le côté héréditaire. Après, il y a aussi des compétences intellectuelles. Il y a des personnes qui ont, ils ont des compétences pour dépasser ça, pour travailler sur eux-mêmes. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas justement à gérer ça. Et là, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Et justement, j'invite toute personne qui est victime de violences dans le passé, mettre ça à table, soit s'il peut dépasser ça avec lui-même.
Se libérer de son passé.
Discuter avec lui-même. Parce qu'il y a ceux qui me disent, je parle avec moi-même, est-ce que je suis malade? Mais non. Là, on met devant nous, sur la table, est-ce que c'est bien? Quel est l'impact? Est-ce que mon comportement... Mais quand on n'arrive pas à voir un psychologue, ce n'est pas une mauvaise chose. Ou on va avoir peur du jugement des autres. Par contre, c'est une manière, c'est un professionnel. C'est quelqu'un d'objectif, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas pour raconter. C'est quelqu'un qui va nous prendre juste la main pour passer ses difficultés. Et l'objectif général, c'est d'être épanoui et surtout ne pas faire du mal aux autres parce qu'au fond de nous, on a du mal.
Donc, en parlant d'être accompagné, est-il possible pour un enfant d'effacer ou de dépasser complètement ses traumatismes?
Alors là, vous parlez peut-être de l'oubli. Il y a ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Quand une personne, là, je reste avec l'enfant, passe des moments difficiles, victime de violence, soit présent ou pas, il va justement garder des images dans sa tête de violence, de peur, d'incertitude, d'insécurité, mais aussi qu'est-ce qu'on transmet? Le couple, la scène de violence devient un schéma des fois normal chez l'enfant. C'est pour ça que des fois qu'il reproduit avec même ses camarades. D'ailleurs, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que l'école est importante? Dans la cour, des fois on remarque un garçon violent. Mais quand on cherche à comprendre son comportement, c'est important, on peut trouver dans sa famille, il y a une relation de violence. Ça devient, donc la violence devient un acte normal. Vous voyez, donc il reproduit. Donc c'est un schéma. On sait que l'éducation, ce n'est pas avec les paroles, mais avec l'action. Donc on a montré des actions à l'enfant, elle l'a répété, tout simplement. Donc on doit éviter ça. Donc, pour vous dire que si l'enfant oublie, j'allais vous dire, il ne va pas oublier, non, mais plutôt il va corriger. Il va prendre conscience de cet acte, mais ça reste comme un souvenir. Ce qui est important, quand il y a une prise en charge, actuellement, par exemple, je me rappelle des personnes, des adolescents, c'est important, parce que là, l'adolescence, c'est l'âge de 12 ans jusqu'à 24 ans, c'est la fin d'adolescence. C'est l'âge où ce qu'on appelle, il y a un regard sur soi, comment j'étais, et c'est une phase de transition pour devenir adulte. Il se pose des questions, qui suis-je, comment dois-je devenir? Et là, il se pose des questions sur son passé. Et c'est là qu'il commence à se construire. Et les enfants qui ont eu un vécu difficile ou bien donc de violence, ils essaient de parler justement avec le passé et ils se disent oui, j'ai eu quand même un climat de violence à la maison, mais je dois l'éviter. Je ne dois pas être comme ça dans l'avenir. Moi, avec par exemple ma femme dans l'avenir, je vais être. Voilà, donc là, il donne un autre modèle positif. C'est important, il y a une prise de conscience. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il l'a oublié, non. Mais par contre, il l'a compris.
Les séquelles, ils sont là.
Ils sont là, mais quand il y a une prise en charge, c'est ça d'ailleurs, le rôle du psy, ça veut dire que ça reste un passé, ou des fois, ça peut être, au contraire, une base pour justement construire quelque chose de positif et éviter justement ces comportements, tout simplement parce qu'ils sont conscients qu'on croit que ça impacte leur personne et l'environnement d'une manière générale.
C'est clair. Merci beaucoup, docteur Nora Yefsa. On va passer à quelques questions des auditeurs. Sarah nous dit, mon fils devient agressif depuis qu'il entend nos disputes. Que dois-je faire?
Oui, là, je viens justement de toucher ce point. Vous savez que l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des actions. L'enfant répète ce qu'il voit. Donc, il a vu des disputes. Il peut même prendre ça pour des actes normaux. Premier lieu, si c'est possible de discuter avec le mari, justement attirer son attention, comme quoi donc, ça impacte l'enfant, il peut reproduire la même chose, il peut même impacter plutôt son cursus scolaire, ses résultats scolaires, son épanouissement. Là, parce que là, par expérience, généralement, quand on parle à l'auteur de violence, quand on parle de l'impact sur les enfants, ils prennent quand même conscience. Ils ne veulent pas avoir quand même des enfants violents ou agressifs. Et là, si il y a pas de solution, moi je préfère qu'elle va, si elle peut aller voir un psy pour faire une thérapie de couple, ça va être vraiment bénéfique pour eux.
Très bien. Alors Karima, est-ce vrai que même les bébés ressentent la violence conjugale? C'est
oui,
ce que vous avez
oui,
dit tout à l'heure.
Oui, j'ai cité la violence, donc je l'ai dit. Donc les études ont montré que le bébé, donc à partir de surtout 4 à 7 mois, il entend même les voix extérieures. Donc là, il faut vraiment faire attention. C'est bien d'avoir un entourage serein. D'ailleurs, on voit quand il y a des disputes, le père qui parle de l'extérieur, il entend la voix de la mère. D'ailleurs, à la naissance, vous savez, juste à la naissance, le bébé regarde pour quelques secondes le visage de la mère. C'est comme si il lui dit, ah finalement, c'est ça, c'est toi, la voix que j'entendais. Mais la deuxième voix, d'après la recherche, il cherche la deuxième qui est le père. Donc, on espère qu'il va quand même garder dans son cerveau des voix positives, rassurantes.
Alors, Myriam, ma nièce ne parle plus, depuis des mois. Est-ce un signe lié à ce qu'elle vit chez elle?
Ben, merci pour cette question. Peut-être que on n'a pas eu le temps de citer tous les impacts des violences conjugales. Vous savez, elle peut toucher même le langage. Des fois, donc, on remarque des retards de langage, ce qu'on appelle des retards de langage simples. Ça veut dire que le climat n'est pas préparé pour aider cet enfant à parler, tout simplement. C'est un bain linguistique négatif et pauvre. Donc, c'est possible, si cette famille, ce couple-là, il n'y a que des disputes, donc elle peut mettre un frein pour le développement du langage, oui.
Alors, Mourad dit, comment aborder le sujet avec un enfant sans lui faire revivre la peur?
Ah, ça, c'est très important aussi. Donc, on n'a pas parlé sur ça. C'est bien si l'enfant qui a été exposé à ces violences, dans un moment, après la dispute, si un parent, le père, par exemple, la maman, prend son enfant, explique ce qui s'est passé et surtout, il faut le rassurer. C'est important si, par exemple, le parent lui dit, on va essayer de discuter, on va essayer de ne pas répéter ces scènes, je sais que ça te fait mal. Et on va remarquer généralement, les enfants posent des questions. Pourquoi au fait, ça me fait peur? Et puis j'attire l'attention, ces derniers temps, il y a la fugue des adolescents. La fugue, c'est parmi aussi les signes, des fois, d'un climat de violence à la maison. Parce que l'adolescent cherche la fuite.
J'ai une question d'ailleurs de l'auditeur Ahmed. Est-ce que quitter le foyer suffit pour protéger un enfant ou faut-il un suivi?
Est-ce que
quitter le foyer, je pense qu'il parle de l'auteur de la violence.
Oui. Donc quitter, ça veut dire que s'il parle de l'auteur, parce que là j'ai peur qu'il parle de l'enfant, mais non. Ouais. Donc quitter, non. Donc quitter, donc on ne règle pas le problème. D'abord, on va commencer par discuter avec la personne. J'ai dit quand on pense à quitter, ça veut dire qu'il ne pouvait pas aussi peut-être affronter tout seul. Un professionnel est nécessaire. On voit, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ajustement du couple. Ça veut dire ce qu'on fait dans la thérapie du couple, on essaye de trouver des points communs. Je vous ai dit tout à l'heure que tout couple passe par la deuxième étape du développement du couple, qui est la phase du conflit. Et des fois, parce que là, chacun de nous a des compétences et l'autre non. Par exemple, la communication, il y a ceux qui ne savent pas communiquer. Même si au fond, ils veulent régler le problème, ils ne savent pas comment justement s'exprimer. C'est là justement que le professionnel devient nécessaire. Aider l'autre à s'exprimer, à avoir ses intentions. Des fois, par peur, on fuit. Justement, il y a généralement, j'ai trouvé des hommes, ils essaient de fuir cette situation. Ils me disent, par exemple, moi, je ne rentre pas tôt pour éviter les problèmes. Mais finalement, jusqu'à quand on va éviter ce problème? C'est bien de choisir un moment où, par exemple, la tension a baissé et puis d'ouvrir la communication, si ce n'est pas possible. Je les invite à voir un professionnel.
Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants qui fuguent et c'est un sujet très important parce que depuis toute ma carrière professionnelle à Radio-Orient, j'ai écouté des témoignages à l'antenne et les familles qui ont des adolescents qui ont été placés et ils ont trouvé ça choquant. Mais avant de penser à l'enfant qui soit placé, est-ce que vous avez pensé pourquoi il a décidé de quitter la maison?
C'est important. Vous savez, nous, quand je dis non, nous, les psychologues, donc tous ceux qui travaillent dans la psychologie, on pose plutôt la question pourquoi. On veut comprendre. On n'accuse pas, on ne juge pas. C'est-à-dire que je reçois, par exemple, entre guillemets, des fois je reçois un adolescent qui a fugué, je ne peux pas le prendre pour un mauvais garçon, il a fugué, ou une mauvaise fille, elle ne respecte pas les valeurs, elle ne respecte pas. Moi, ma première question, qu'est-ce qui a poussé cet adolescent à fuir ? Peut-être on va, ce sera avec un grand plaisir que je vais peut-être aborder avec vous ce sujet de fuite, parce que c'est un sujet large, qui cache beaucoup
on derrière. On fera une émission sur cette thématique.
Parce que là, vous savez, l'adolescence,
c'est l'âge... Et qui choque beaucoup les parents.
Mais on doit discuter. C'est pour ça que le rôle de ces émissions sont importantes. Et moi, je suis quelque part militante, comme vous avez commencé votre introduction tout à l'heure. C'est un devoir pour nous, qui travaillons dans ce domaine de la psychologie, d'informer, de parler, de toucher des sujets. Parce que des fois, un petit facteur peut quand même mener à des situations et malheureusement qui affectent toute la famille et toute la société.
En tout cas, je vous remercie infiniment et je suis sûre que les auditeurs ont appris beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Merci. Les enfants de la violence conjugale portent des blessures invisibles mais profondes. Il faut faire attention. Ils ont besoin d'écoute, de stabilité et d'un accompagnement adapté pour se reconstruire, en parler, c'est reconnaître leurs souffrances, briser le silence et les aider à retrouver un chemin vers la sécurité et la confiance. N'est-ce pas, docteur?
Oui, c'est vrai, bien sûr. Si l'enfant est exposé, comme j'ai dit tout à l'heure, soit exposé d'une manière directe, présent, à vue, à assister, soit d'une manière indirecte, son retour à la maison, voir un climat ou remarquer un climat. Vous savez, c'est important aussi, je vais attirer l'attention des fois, l'enfant remarque qu'il n'y a pas de discussion entre ses parents. Des fois, il y a même des séparations, ce qu'on appelle des séparations émotionnelles. Le couple est là, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils font même des chambres séparées.
Et je vais dire le contraire. Il y a des couples qui sont séparés, mais leur présence, elle est importante parce que c'est une présence de qualité.
C'est important.
C'est très important. Ce n'est pas le nombre d'heures d'être présent, mais c'est la qualité d'écoute et de communication avec les enfants.
Parce qu'on va aborder même des parents absents qui sont présents.
Bah oui.
Dans le sens où matériellement ils sont là, mais sur le plan affectif ils ne sont pas là. C'est important. Peut-être c'est ce qui va nous pousser à se poser la question. Quels sont les besoins nécessaires de l'enfant ? Est-ce que je suis un bon père ? Une bonne mère ? Quel est le rôle du père réel, donc psychologique ? Est-ce qu'il suffit d'être présent ? Est-ce que finalement, avoir un enfant, il faut réfléchir avant ? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ces derniers temps, je trouve positif que des couples avant le mariage, ils décident de voir un psy, de se poser des questions. Est-ce que je suis prêt pour avoir des enfants ?
Et peut-être, des fois, on est un mauvais couple, mais on est des bonnes mamans, des bons papas.
Et
donc.
Là, la preuve, c'est des fois ce qu'on appelle le divorce réussi. Je trouve des parents divorcés, mais
on n'encourage pas.
Non, on n'encourage pas. Si le divorce est présent, au moins que le père continue ou bien joue un rôle du père toujours présent.
Abrad al-halal, taban.
Oui. Là, pour ne pas justement prendre l'enfant comme un objet de chantage, ou bien donc là, il devient une victime. Mais s'il est présent, il faut profiter de cet épanouissement. Et puis, les conflits existent, on doit le répéter, mais on est contre les violences.
Contre les violences. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Dr. Noura Yufsah. Vous avez ouvert plusieurs dossiers, donc vous êtes engagée à discuter pas mal de thématiques.
Oui.
Dans notre émission, vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Encore une fois.
Merci.
En famille, avec Zour sur Radio Orient.